Frères et sœurs, lisons ensemble la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, les versets 9 à 13. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, l'espérance, l'amour, ou parfois traduit aussi la charité. Voilà le plan tout trouvé de ce message, mais que je ne terminerai pas aujourd'hui. La foi. La définition que nous donne le dictionnaire Larousse est celle-ci. Ferme adhésion de l'intelligence à la vérité qu'elle reconnaît. Cette définition, donc, ne dissocie pas du tout la foi et l'intelligence. C'est une ferme adhésion de l'intelligence à la vérité qu'elle reconnaît. Notre esprit, notre intelligence reconnaît une pensée comme vraie et décide d'y adhérer. C'est donc ce que dit cette définition. Le dictionnaire continue en disant « croyance au dogme révélé de la religion ». Sur le plan de la théologie, la foi est une vertu qui fait adhérer aux vérités divines. Et si on regarde un petit peu le mot « vertu », en fait, on pourrait dire plus simplement « la foi est la capacité d'adhérer aux vérités divines ». L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Certains espèrent être heureux ou être riches, ou être célèbre. Mais il ne s'agit pas ici d'avoir la foi pour faire une brillante carrière ou pour gagner à l'euro-million. Avoir la foi, dans ce que nous entendons, avoir la foi, ce n'est pas un encouragement à croire en soi, en ses capacités. Quelquefois, on pourrait entendre ces conseils, ben, il faut croire en toi, il faut croire que tu es capable. Avoir la foi pour nous, enfin, ce n'est pas un encouragement à croire en soi, en ses capacités. Avoir la foi, ce n'est pas du positivisme, avoir un esprit positif, comme on l'entend aussi. Ce n'est pas de l'autoconditionnement. Il ne s'agit pas de se répéter chaque matin « Je vais bien, tout va bien ». La foi ne concerne pas les choses que l'on voit. Si elles sont visibles, on n'a pas besoin d'y croire. Comme nous l'avons lu, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il existe des choses que l'on ne voit pas. Et ce n'est pas parce que l'on ne voit pas ces choses qu'elles n'existent pas. Dans Hébreux 11, au verset 3, l'auteur poursuit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » L'homme peut voir l'univers et il essaie de voir de plus en plus loin avec des télescopes de plus en plus puissants. Mais l'origine de l'univers, le Créateur, il ne peut pas le voir avec l'œil humain. En 1961, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, aurait dit « J'étais dans le ciel et j'ai bien regardé partout, je n'ai pas vu Dieu. » Il faut la foi pour reconnaître ce Dieu immortel et invisible, selon ce que nous dit Paul, ce que dit Paul à Timothée, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et Jésus a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » N'est-ce pas notre cas pour la plupart ? Nous n'avons pas vu Jésus, nous n'avons pas vu Dieu, mais nous croyons. Nous croyons donc en un Dieu créateur, comme il est dit dans Hébreux. Mais pas seulement. Nous croyons que ce Dieu nous a parlé. Il s'est révélé à l'homme. Il nous faut donc entendre, écouter cette voix de Dieu. Romains au chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il ne s'agit pas de croire tout ce que les religions peuvent nous dire de Dieu. Il s'agit de croire ce que Dieu a à nous dire. Dans Hébreux chapitre 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Depuis l'origine, Dieu a parlé à l'homme. Il a déjà parlé à Adam et à Ève. Et Adam et Ève ont transmis aux générations suivantes ce que Dieu leur avait dit. Ce qu'ils ont fait aussi, peut-être leur désobéissance. Parce que, vous savez, si on regarde la généalogie des hommes de cette époque-là, ils vivaient très longtemps. 800, 900, presque 1000 ans. Parce que, bien sûr, Dieu a donné un terme après le péché et il a dit à l'homme, tu mourras. Mais si on regarde les généalogies, il y a environ entre 1660 ans de Adam jusqu'au déluge. Mais si vous regardez la vie de tous les hommes qui sont cités, bien sûr, qui sont nommés, tous les hommes ne sont pas nommés dans la Genèse, mais des hommes importants qui ont vécu, eh bien, leur vie se prolonge et se chevauche jusqu'au déluge. Tous les hommes de cette époque-là ont eu le temps d'entendre Adam, Ève, Caïn aussi, qui a fauté, mais qui avait entendu la parole de Dieu. Il y a eu donc aussi Abel, qui a été tué par Caïn. Mais Hébreux, au chapitre 11, nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » L'offrande d'une vie, un agneau, pour sa propre vie, a été pour Abel une démonstration de sa foi dans la miséricorde de Dieu. Et ce sacrifice, ce sang qui a été versé, a parlé aux générations suivantes. Ils avaient le témoignage d'Abel. Dieu a parlé par Abel aux hommes avant le déluge. Dieu a parlé par Hénoch, le septième depuis Adam. Et l'apôtre Jude nous en parle, que Hénoch a prophétisé. Dieu a parlé par Noé, ce prédicateur de la justice, selon ce que dit Pierre dans sa seconde lettre. Les hommes d'avant le déluge n'étaient pas ignorants. Non, ils n'étaient pas ignorants. Ils avaient eu tout un enseignement qui a été transmis oralement par tous ces hommes de foi qui ont obéi au Seigneur, comme Hénoch qui a marché avec Dieu. Ils ont été enseignés directement tout au long de leur vie. S'ils avaient été ignorants, Dieu ne les aurait pas détruits par les eaux du déluge. Dieu aurait dit ce qu'il a dit à Jonas à propos des Ninivites. Dans Jonas au chapitre 4, l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Si les hommes de cette époque avaient été ignorants, Dieu ne les aurait pas détruits. Mais ils étaient rebelles, ils avaient détourné la voie de Dieu. Et Dieu est intervenu. Mais après le déluge, Dieu a continué à parler. Il a continué de parler à Abraham, à Isaac, à Jacob, à tous les prophètes qui ont suivi. Et leurs paroles, ce qu'ils ont dit de la part de Dieu, donc ont été écrites dans des livres et regroupées dans la Bible, la parole de Dieu. Avoir la foi, c'est donc aussi reconnaître que ce livre, la Bible, est bien la parole de Dieu. Que la Bible nous transmet bien la pensée, non pas des hommes, mais la pensée de Dieu. Sitôt que l'on remet en question, en cause la Bible, la foi est amoindrie, elle est attaquée. Est-ce que la Bible dit vraiment ça? Est-ce que c'est la bonne interprétation? Dieu a-t-il réellement dit ça? Etc. Vous connaissez la question posée par le diable à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? La foi, c'est croire que la parole de Dieu, invisible, a pris forme humaine. C'est le mystère de l'incarnation. Jean chapitre 1, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus pose la question à l'aveugle né qu'il avait guéri et qu'il retrouve ensuite. « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Jésus est le Fils de Dieu, la parole incarnée, le Seigneur en qui nous devons croire. Avoir la foi, c'est croire que le Fils de Dieu a donné volontairement sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Jean 10, 17 à 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Avoir la foi, c'est croire aussi que le sang de Jésus est suffisant pour effacer nos péchés et effacer la condamnation qui pesait sur nous depuis Adam et Ève, depuis la chute. Il n'y a donc rien à ajouter. Dans Luc 22, on lit « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et par rapport au sacrifice d'animaux qui étaient pratiqués à cette époque-là, mais qui sont toujours encore pratiqués dans certaines religions, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ? » Et dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Avoir la foi, c'est croire que Jésus, mort pour moi, est aussi ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, il y a beaucoup de passages dans Hébreux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et au chapitre 7, versets 22 à 25, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Avoir la foi, c'est croire que Jésus a répandu sur nous son Esprit Saint, comme il l'avait promis. Dans Luc 12, il nous dit « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Et il dit au chapitre 15 « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et dans Jean 16, au chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Avoir la foi, c'est croire qu'il va revenir. Jean 14, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et après son ascension, les anges ont dit aux apôtres dans Actes 1, chapitre 1. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus nous dit au chapitre 22, le dernier chapitre, versets 20 et 21, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » C'est-à-dire, c'est Jésus qui parle. « Oui, je viens bientôt. » Et l'apôtre répond « Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » C'est ici que pourrait commencer le deuxième point sur l'espérance, et que nous verrons plus tard. Dans l'article du dictionnaire, il est parlé de la foi du centurion. Selon le dictionnaire, la foi du centurion, c'est une croyance profonde et confiante. On nous parle aussi de la foi du charbonnier. Et malheureusement, enfin, la foi du charbonnier, selon le dictionnaire, c'est une foi qui est une croyance aveugle et non réfléchie. Alors moi, je pose la question, quelle est notre foi? Quelle est votre foi? Est-elle une foi éclairée, une foi affermie, qui s'appuie sur la parole éternelle de Dieu? Ou est-elle vacillante, fluctuante, au gré des difficultés de la vie? Jésus n'a jamais dit que tout irait bien dans notre vie terrestre. Il a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Notre foi sera renforcée par une lecture attentive de la parole de Dieu. Pour résumer, donc, la foi chrétienne, c'est, entre autres, croire au Dieu créateur de l'univers, croire que ce Dieu nous a parlé et qu'il s'est révélé, croire qu'il a fait écrire ses paroles, sa pensée, dans des livres sur lesquels il a veillé et qui sont réunis dans la Bible, croire que la parole créatrice s'est incarnée en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Croire que ce Fils a donné sa vie pour nous sauver. Croire que son sacrifice est suffisant pour nous racheter. Croire que Jésus-Christ est ressuscité. Croire qu'il est monté au ciel et vivant éternellement. Croire qu'il nous a donné son Esprit Saint pour nous conduire et nous instruire. Croire qu'il reviendra et que nous vivrons avec lui dans son royaume éternel. C'est tout cela que le Seigneur nous amène à découvrir tout au long de notre vie, dans les joies et dans les difficultés que nous traversons. Ce résumé que l'on pourrait appeler credo, le credo, ça veut dire « je crois » ou « confession de foi », peut nous aider à préciser, à définir notre foi pour ne pas vivre dans le vague. Cela peut être un témoignage de ce qui est pour nous la vérité et de pouvoir le manifester au monde. Que le Seigneur nous garde dans la foi. Amen. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta parole, Seigneur. Et je demande de nous renouveler tous, Seigneur, dans cette foi en toi, en ta parole, en tes promesses. Toi, le Seigneur, le roi des rois, le créateur de toutes choses, le Dieu invisible qui s'est manifesté parmi nous sur la terre et qui va bientôt revenir, Seigneur. Nous croyons en toi et nous voulons ce matin encore affirmer cela par nos prières, par nos chants, en communiant, Seigneur, à la Sainte Cène que tu as établie. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.